De nouveau, bonsoir Henri Leclerc.
Bonsoir.
Nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée sur France Culture. Depuis le début de la nuit, nous avons entendu Albert Nau, une émission consacrée à l'éloquence, et il a été question de la guerre d'Algérie avec Pierre Vidal-Naquet parlant de la torture, et à travers un documentaire sur Victor Bache, il a été question des années 30 et de la guerre. Henri Leclerc, vous avez commencé votre carrière en 1956, vous avez plaidé dans des affaires qui ont fait date et qui ont marqué des temps importants de la vie sociale et politique de notre histoire. Comment l'avocat et le militant que vous êtes a-t-il vécu sa relation avec la presse et les médias? Et comment avez-vous vécu et vivez-vous les transformations, les évolutions qu'a connues depuis plus d'un demi-siècle ce monde des médias? En particulier, comment jugez-vous la réalité d'aujourd'hui?
Vous savez, je suis comme tout avocat. On a des... Au départ, on a des gens qui se plaignent de choses qui ont été écrites sur eux, et puis on défend des journalistes petit à petit, et c'est vrai que je me suis... Pendant la période où le gouvernement voulait absolument la période post-68arde, où les journaux étaient pris à partie, où, bon. Là, il y a eu la création du journal Libération, dont je suis devenu très vite l'avocat. Pas tout à fait à la Fondation, d'ailleurs, parce que je connaissais bien entendu parfaitement les gens de l'agence de presse Libération, avec lesquels je travaillais, Hulleux et Vernieux, que nous allons entendre tout à l'heure, et Sartre aussi, et Clavel, bon... Mais en fait, Libération n'a été fait qu'un peu plus tard. D'ailleurs, je vois bien que ceux qu'ils font ont encore un petit peu d'amertume. Ils parlent d'une politisation au moment où Serge Julien a pris la direction. Et là, je suis resté l'avocat de Libération pendant 30 ans. Et j'ai donc vécu ce qu'était la presse. Et je me suis spécialisé, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs défendre la presse. Je n'ai pas défendu que Libération, j'en ai défendu beaucoup d'autres. Il m'est arrivé un moment de défendre le Canard Enchaîné, il m'est arrivé de défendre une maison d'édition, et donc d'avoir beaucoup d'affaires de presse. Et à côté de ma carrière, qui est surtout une carrière d'avocat pénaliste, mais d'avocat social aussi, bon, j'ai eu une véritable carrière d'avocat de presse et je me suis beaucoup passionné pour la presse et pour le droit de la presse, surtout sur le plan national et international. Et j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'essentiel. Alors, Libération, au départ, était un journal qui, sans avoir la pureté extraordinaire que réclament les fondateurs de l'agence de presse Libération, que vous allez entendre tout à l'heure, était un journal qui gênait, qui avait quand même un certain nombre de particularités parmi d'autres journaux, d'autant plus qu'à l'époque je menais aussi une expérience collective professionnelle qui ressemblait un peu à ce que voulait créer Libération.
Le cabinet d'Ornano
qui était juste à cette époque où j'ai démarré aussi
Une aventure collective, donc.
Oui, donc une conception collective de notre exercice professionnel, une conception égalitaire, une conception collective, une conception d'un cabinet ouvert sur la rue, où les gens pouvaient venir demander des consultations à tout moment, une prise en charge des causes sociales, une façon de calculer le financement, etc. Bon, ça c'est vrai que c'est une expérience qui a duré 20 ans, que j'ai racontée. Et Libération, c'était une expérience nouvelle aussi. Et j'ai beaucoup plaidé pour eux. J'ai raconté qu'au début, n'est-ce pas, il y a des procès classiques, mais au début, le procureur général de Paris avait décidé de leur faire surtout des procès pour toutes les fois qu'il y avait des propos lestes ou des choses qui déplaisaient. Ils étaient poursuivis pour outrage aux bonnes mœurs. On s'est beaucoup amusé pendant des années. Bien entendu, c'est pas comme ça qu'il a réussi à lui tordre le cou. Et donc, j'ai défendu ce journal. Je pense que la liberté de la presse, c'est l'essentiel de la démocratie. Ça, je le pense toujours. Et je pense que c'est comme le dit la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, que c'est... La presse n'est pas faite seulement pour faire plaisir, pour dire des choses qui sont des choses que tout le monde va savoir. Non, mais pour heurter, pour révéler, pour dire la vérité, pour dire du moins ce que les journalistes croient être la vérité, et ils ont l'obligation d'être honnêtes. Bon, tout ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Et le droit de la presse, la liberté d'expression, c'est pour moi l'axe le plus fort de la démocratie. Alors, les choses ont évolué. Il est évident que aujourd'hui, nous sommes dans une situation différente, et surtout, elles ont évolué de plusieurs façons. elles ont évolué parce que, d'une part, dans les modes de production de la presse écrite sont devenus de plus en plus coûteux, que ce dont les fondateurs de Libération croyaient pouvoir se débarrasser, c'est-à-dire la mainmise de la finance sur la presse, ce n'est plus possible aujourd'hui, que nous avons une presse qui est là quand même dans une situation tout à fait particulière. Ce qui n'empêche que cette idée de dire que la presse aujourd'hui, parce que ce sont des financiers qui sont à sa tête, serait... Non, les journalistes sont quand même des gens qui sont libres aussi. Et un journal sait très bien que s'il devient le journal de son patron, plus personne ne va le lire, ce qui dit que donc les journalistes doivent être libres et indépendants, et donc c'est important. Donc la première crise, elle est quand même là, c'est-à-dire le coût de la presse. Nous avons une deuxième crise actuellement, c'est le fait que la presse écrite se trouve en crise parce qu'il y a moins de gens qui achètent la presse écrite. Et que là, nous nous trouvons en face d'une dimension civilisationnelle, en quelque sorte. À Paris, il y a un kiosque qui ferme par jour. Et même un journal comme le Canard Enchaîné, qui est le prototype du journal, qui est en dehors de toute prise de position politique qui appartient à ces journaux, se trouve en difficulté, non pas qu'il manque de lecteurs, mais parce qu'il manque de kiosquiers pour vendre son journal, et qu'alors qu'il a toujours résisté à avoir une version numérique, le problème se pose. Et qu'aujourd'hui, les versions numériques ont pris une importance considérable. C'est pas un mal. C'est pas un mal que les gens puissent lire la presse chez eux, pas par version numérique, encore de l'écrit, c'est bien. Nous avons eu le développement de la presse audiovisuelle. Nous avons le développement d'une presse numérique qui prend une importance considérable. Nous avons alors... On veut faire une loi contre les fake news, ça me paraît un peu idiot, et c'est même assez bizarre, parce que ça, la loi sur... Vous comprenez, on a expérimenté tellement de choses avec la presse. La loi sur la presse de 1881 a été un chef-d'œuvre, rédigé en partie par Clémenceau d'ailleurs, un chef-d'œuvre absolu, et il y avait un délit de fausse nouvelle, mais ce délit de fausse nouvelle, petit à petit, ce délit de fausse nouvelle de nature à troubler la paix publique, la Cour de cassation est obligée de le restreindre et pratiquement il n'est plus jamais utilisé. On va faire des fake news. Moi je veux bien, mais préservons d'abord la liberté de la presse. Ceci étant, le développement actuel des moyens numériques, de cette circulation de l'information sur les réseaux qui permet de n'avoir plus aucun contrôle, effectivement, de faire naître les fake news, de faire croître des rumeurs dans des conditions sans ce filtre médiatique essentiel qu'était le journaliste. C'est quelque chose qui est très préoccupant. Et autant je suis partisan de la liberté de la presse, autant je trouve formidable que tout le monde puisse discuter sur les réseaux sociaux, autant effectivement, il y a un véritable problème parce qu'il n'y a plus ce filtre d'un journaliste.
Henri Leclerc, pour commencer cette deuxième partie, nous écouterons 1973, la naissance de Libération, ou Les limites du rêve, une émission proposée en 93 par Anis Clément, 20 ans après la création du journal. Libération a été directement un enfant de 68. Vous êtes de ceux qui pensent que mai 68 est un temps important de notre histoire. Qu'est-ce que ce moment a produit de positif, selon vous ?
Mai 68, c'est un moment de rêve, effectivement. C'est un moment... Contrairement à ce que j'entends qui est stupide, parce qu'aujourd'hui on peut dire n'importe quoi. Mai 68, c'est un moment où quelque chose se libère. Brusquement, voilà que la jeunesse veut changer le monde, le dit, et que surtout la classe ouvrière part derrière. C'est-à-dire que c'est la plus formidable grève qu'il y a eu en France. Il y a une espèce de mouvement d'enthousiasme où il se dit n'importe quoi. Il ne s'agit pas de dire que les idées de mai 68 sont des idées, mais ça a semé dans une société qui était un peu figée. Nous allions vers le bout des 30 glorieuses, il y avait encore pour 3-4 ans. Mais c'est un moment où les idées étaient figées, où il ne se passait pas grand-chose, et brusquement tout est remis en cause. Alors, bien sûr, la classe ouvrière va obtenir... Enfin, quand même, ils ont augmenté de 25% le SMIC. C'est dire à quel point on en était à ce moment-là, bon... Et bien sûr, ça va être vaincu terriblement, mais en même temps, il y a des idées qui sont restées. Et elles existaient avant, mais ça les a amené l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Le mouvement des femmes, d'ailleurs, en général, le fait que, brusquement, le viol n'est plus devenu accepté comme il l'était, ça, c'est le mouvement des femmes, mais tellement d'autres choses, sur la libération de la pensée, alors, vous avez, dans votre émission, on a entendu Jean-Louis Barrault, qui entendait un certain nombre de jeunes hommes. C'est vrai que c'était pas très juste, ce qui est arrivé à Jean-Louis Barrault, parce que il n'avait pas mérité ce qu'on lui a fait, de lui occuper son théâtre, de le prendre, mais cette espèce de maelstrom d'idées, montrer que il y a toujours des choses qui sont possibles. Et dans ces idées qui se remuaient, qui venaient de partout, c'est pas la révolution. Mais il y a quelque chose qui a bougé en mai 68. Et cette haine de mai 68 qu'ont les conservateurs me paraît toujours tout à fait caractéristique. Quand on hait tellement une époque, c'est bien qu'elle vous dérange. Et elle dérange les gens que je n'aime pas. Donc je suis assez content de ça.
Je voudrais juste faire une petite correction, c'est que j'ai attribué cette émission 1973, la naissance de Libération, les limites du rêve, à Anis Clément, et c'est en fait à Marie-Odile Delacour. Parmi beaucoup d'autres, un des combats communs partagés avec Libération, c'est celui des prisons, Henri Leclerc. Depuis les années 70, on ne peut pas dire que la condition carcérale se soit vraiment améliorée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, elle ne fait pas la une des médias et ne semble pas occuper plus que cela les esprits. Comment expliquez-vous l'indifférence d'aujourd'hui à ce qui était à gauche dans les années 70, une question centrale?
D'abord, les prisons ont toujours été un problème. Et le livre magnifique de Michel Foucault, « Surveiller et punir », qui date de ce moment-là, un peu plus tard, dans les années 70, montre que l'histoire de la prison, disons depuis le début du 19e siècle, est tout à fait caractéristique, parce que tout ce qu'on a dénoncé, ça a toujours existé. La prison, à la fois comme seule méthode répressive, qui est évidemment préférable à la torture, aux exécutions, aux sacrifices abominables de l'Ancien Régime, à la peine de mort. Mais en même temps, personne n'a réussi à bien résoudre ce problème. Moi, j'ai toujours détesté la prison. Je me suis toujours battu contre la prison, contre les conditions de détention. Avant même qu'il y ait ces grandes batailles des années 70, le JIP, le CAP après, qui était un mouvement de prisonniers, bon, le JIP surtout avec Foucault, Mauriac, Claude Mauriac, Daniel Defer, enfin un certain nombre de militants exceptionnels. Et on se battait sur les conditions de détention, mais sur le principe de la prison. Faut pas oublier qu'à cette même époque, nous avions les QHS, qui étaient une espèce d'abominable condition de détention imposée à des gens, et qui ne signifiait rien. La preuve, c'est que Mérine, il s'est évadé de son QHS. Donc le QHS, c'était pour faire souffrir les gens. C'était pas pour autre chose. Et il y a là quelque chose qui est, dans la conception même de la prison, on n'a pas réussi à savoir. Alors on dit toujours, la conception, elle a pour but de préparer la réinsertion sociale, d'éviter la récidive. Et Christiane Taubira a fait voter une loi qui l'affirme encore. Mais en réalité, la prison, elle est pas, c'est pas vrai. Parce que la récidive, par exemple, la prison qui l'a créée, et la seule façon dont on a fait reculer dans l'histoire, c'est quand on a évité la prison, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, le sursis et la libération conditionnelle. On a fait reculer la récidive. Mais en fait, aujourd'hui, on se trouve dans une situation effrayante. En 1960, en 2000, le Sénat a fait un rapport. Et il a fait un rapport sur les prisons qu'il appelait « Les prisons, une humiliation pour la République ». On ne peut pas considérer que le Sénat soit un brûlot. Et c'était le constat, les sénateurs, ils ont enquêté là-dessus. Ça faisait longtemps qu'ils auraient dû le faire. Ils ont été effrayés. Ils ont fait un rapport, ça n'a rien changé. Et aujourd'hui, nous avons 70 000 prisonniers dans 60 000 places, et l'écart continue à exister. Et il ne s'agit pas de construire des prisons, parce que si on construit 10 000 prisons de plus, on mettra 10 000 prisonniers de plus. C'est inéluctable, non. Il faut une autre conception de la répression. Il faut véritablement mettre des moyens, mais qui sont des moyens financiers très importants. Est-ce qu'on veut mettre les moyens financiers dans la prison aujourd'hui? Ben, c'est très difficile à faire accepter comme idée. Et pourtant, si on avait les moyens financiers, la prison pourrait être autre chose. Elle pourrait ne plus être inhumaine, d'une part. Elle pourrait toujours rester un instrument de répression. Mais elle pourrait préparer à la réinsertion, c'est-à-dire faire reculer la délinquance.
Henri Leclerc, votre nuit se poursuivra en écoutant une conférence donnée par Mona Ozouf en 2002 à la Bibliothèque nationale de France sur Victor Hugo et les Misérables. C'était à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. C'est une archive qui vous a particulièrement enthousiasmé.
Ah, c'est... Vous savez, Les Misérables, c'est un livre qui... Bon, je ne suis pas le seul, c'est très banal de dire ça. Mais Les Misérables, je l'ai lu pour la première fois, c'était dans la bibliothèque de mon père sur le COSI, là. Oh, j'avais 14 ans, hein, je pense. Alors, bien sûr, je l'ai lu comme on le lit à ce moment-là, en sautant les longues digressions. Je l'ai lu comme l'histoire de Jean Valjean, c'est formidable, Monseigneur Myriel, Madeleine, formidable, l'intrigue policière, la barricade, enfin, tout ça. Je l'ai lu comme un livre enthousiasmant. Et puis je l'ai relu, j'avais 22 ou 23 ans, peut-être un peu plus, même 25 ans. Un jour, je l'ai retrouvé, au même endroit d'ailleurs, je me rappelle, j'étais venu voir mon père, j'ai dit, tiens, je lui ai pris le livre, et je l'ai relu, et là, j'y ai trouvé beaucoup d'autres choses. Je n'ai jamais été aussi loin que Lev Monahozouf, qui fait une analyse absolument extraordinaire de la valeur historique des Misérables. Mais c'est un livre continent, comme elle dit, je crois que c'est un livre où il y a tellement de choses, et vraiment... Non seulement l'intrigue, l'histoire, bon, c'est l'histoire de romancée, mais en même temps, ces personnages, tous ces personnages que l'on rencontre, leur richesse, ces personnages extraordinaires, enfin, faut voir ce qu'est Gavroche. Et tous, Monsieur Mabeuf ou Enjolras, enfin, ce révolutionnaire. Moi, j'ai connu des Enjolras en mai 68. Bon, c'est ces gens qui font des discours enflammés. Et il y a tout cela. Et il y a surtout, effectivement, une vision historique qui est assez extraordinaire d'un livre magnifiquement écrit. Donc, ça que vous fassiez. Et je trouve que l'analyse que fait Monahozouf, que vous avez avoir la chance d'entendre, est une des analyses les plus intelligentes que j'ai entendues sur ce très grand livre de la littérature française.
Comment Hugo vous a-t-il accompagné dans votre vie d'avocat et dans vos actions militantes? Qu'est-ce que Hugo vous a appris, transmis?
Alors, je vais vous dire, Hugo, il m'a tout appris. C'est-à-dire que comme Hugo, c'est un écrivain, c'est un écrivain que j'ai toujours connu, parce que mon père adorait Victor Hugo. Bon. Et alors, j'ai tout appris dans Victor. J'ai lu. Je ne peux pas dire que j'ai tout lu, parce que ça, je ne crois pas qu'il y ait un homme au monde qui ait lu tout Victor Hugo. Mais j'en ai lu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est considérable. Je me rappelle, j'avais offert à maman, j'étais jeune, encore un bouquin, c'était tout ce que Victor Hugo avait écrit en vers. La poésie, on appelle ça, mais enfin tout. Mais c'est énorme. Bon, j'ai lu tout ça. Et je suis même de ceux qui ont lu ces extraordinaires poèmes de la fin, qui sont très méprisés par certains. Bon, alors... Et Gide disait, c'est le plus grand poète français. Hélas, c'est une sottise. C'est un grand poète, mais ce n'est pas qu'un poète, c'est beaucoup d'autres choses. C'est un homme qui domine l'océan. Enfin, c'est un bon. Et alors, et c'est vrai que j'ai appris des choses, beaucoup de choses dans Hugo. Je m'aperçois quand je fais mon livre que je retombe sur lui de temps en temps.
Oui, il revient régulièrement dans votre. Il revient régulièrement dans
votre
livre.
Il revient régulièrement, c'est-à-dire que quand j'écris, pof. Il y a un truc de Victor Hugo qui me revient et c'est vrai que je raconte par exemple que j'ai trouvé un jour dans Chose Vue, quand Victor Hugo est à Jersey, là tout à fait au début de son exil, avec plein de républicains, ils ont découvert qu'il y en avait un qui était un mouchard et ils veulent le tuer. Et Victor Hugo fait un discours sur c'est un mouchard. Le mouchard est infâme, mais l'homme est sacré. Il l'empêche. C'est magnifique.
Vous dites ça a été pour vous une véritable leçon de défense.
Je dirais qu'il a été. Il a été quelqu'un qui m'a un peu ouvert à la littérature, parce que c'est vrai qu'à un moment, il y a tellement d'autres choses à lire qu'on abandonne un peu Hugo. Mais en même temps. Je trouve cet homme formidable et je raconte un truc extraordinaire. Je raconte que je plaidais un moment pour des Arméniens, un moment où il y avait du terrorisme arménien. Et il y avait un type qui était parti à Berne et qui était accusé d'avoir tiré sur un ambassadeur de Turquie qu'on jugeait à Marseille. Et ce qu'a été le génocide arménien. Et à un moment, quand je suis en train de plaider, brusquement, je pense à quelque chose. Et je récite tout l'enfant de Victor Hugo, l'histoire de l'enfant grec, etc., et qui termine par « Je veux de la poudre et des balles ». Et brusquement, j'ai dit « Mais je vais plaider une heure, j'en dirai pas plus qu'il n'en a dit en 15 vers. Voilà. Donc, Victor Hugo est un personnage extraordinaire. Et alors, s'il y a des gens qui ont la chance d'écouter à cette heure tardive Mona Ouzouf, je leur conseille d'essayer de résister un peu contre le sommeil.
Mona Ouzouf s'intéresse donc à la dimension historique et politique, oui, du roman. Bien souvent, dans une existence, les opinions politiques partent plutôt de la gauche dans la jeunesse pour se recentrer, voire se droitiser avec l'âge. Victor Hugo a plutôt fait le chemin inverse. Quel regard portez-vous sur ce qu'a été la trajectoire et le rôle politique d'Hugo ?
Mais c'est-à-dire que Hugo, on le sait très bien, il a commencé comme monarchiste. Enfin, il était quand même, comme les Marius, le fils d'un général, d'un général napoléonien, Bonaparte, d'un général d'Empire. Et bon, il a commencé comme ça, il était, alors le théâtre, tout cela, bon. Et puis, petit à petit, il est devenu pair de France, il a fait de la politique. Et au fur et à mesure qu'il faisait de la politique, c'est vrai qu'il s'orientait à gauche, et que quand il est... Quand arrive la révolution de 1848, il est carrément républicain. Alors, il y a quelque chose qu'il faut rappeler quand même, c'est le combat qu'il mène contre la peine de mort, qui est un combat admirable, qui non seulement s'exprime dans un livre superbe et qui est Les derniers jours d'un condamné, mais qu'il va toute sa vie mener, il va se battre contre la peine de mort, se coltiner avec elle. Bon. Et en même temps, c'est vrai qu'il a une dimension sociale. Alors, c'est pas un socialiste, c'est un... Mais il a une dimension républicaine, et c'est vrai que cet homme est un homme qui va aller vers la gauche. Et quand il sera Guernesey, il n'a pas trop aimé la Commune, par exemple, mais il n'a pas supporté ce qu'on faisait aux communards. Et là, il s'est dressé encore, alors qu'il était quand même très vieux. Et il n'a pas cessé, et ça, il y a quelque chose d'admirable dans son comportement politique aussi. Et cette évolution est passionnante, parce que c'est l'évolution d'un homme, effectivement, qui va de la droite, disons du conservatisme, vers la gauche. Et ça c'est quand même un personnage assez extraordinaire.
Cette nuit en votre compagnie se terminera avec un autre écrivain qui, lui, depuis longtemps, depuis sa mort en fait, n'a plus du tout la cote, alors qu'il a été de son vivant couvert de gloire et d'honneur, Anatole France. Henri Leclerc, nous écouterons une lecture des Dieux ont soif par Michel Bouquet en 1954 sur France 4 Haute Fidélité, une lecture en trois temps dont nous diffuserons les deux suivants les nuits prochaines. Pourquoi tenez-vous les Dieux ont soif pour un très grand roman ?
Ah, je tiens les Dieux ont soif d'abord. J'aime Anatole France. Je rappelle qu'Anatole France est un père que j'ai beaucoup lu et qui est un homme qui a été, à la fin de sa vie, il n'a pas été président de la Ligue des droits de l'homme, mais il a été une des lumières de la Ligue des droits de l'homme, que son discours au moment de l'enterrement de Zola, moment de la conscience humaine, est une merveille, et que c'est un homme qui avait une pensée, qui est quand même une pensée très libre. Alors, difficile à définir, cet homme qui dans la littérature se dépeint lui-même un peu dans les yeux en soif sous le personnage de Brotteau, j'en dirais deux mots, mais qui est aussi, en mon avis, le personnage auquel pense Prout pour Bergotte, et bon, qui meurt en pensant au petit mur de petit pan de mur jaune, et ce personnage donc qui a fasciné même un homme comme Proust, hein. Alors, il a écrit des livres un peu difficiles, mais qui sont très beaux. Moi, j'ai beaucoup aimé l'Histoire contemporaine, par exemple, qui est un livre assez long, où il y a un personnage qui lui ressemble un peu, bon, quand même, qui est Monsieur Bergeret, mais enfin, bon. Et puis, surtout, il a écrit ce livre Les Dieux ont soif. Or, Les Dieux ont soif, on se cite particulier que c'est un livre sur la période révolutionnaire, mais c'est un livre qui va au cœur du problème le plus difficile de la période révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il va au moment de la terreur et du tribunal révolutionnaire. Alors, moi je raconte que j'ai été complètement... Il y a quelque chose qui m'a secoué, qui m'a... C'est quand j'ai eu 17 ans et que j'ai lu Michelet. J'ai eu cette chance inouïe de me trouver dans la maison de mes grands-parents et de lire intégralement l'histoire de France et surtout l'histoire de la Révolution. C'est-à-dire que ça m'a pris 2 mois, mais c'est un moment extraordinaire de ma vie. Et lisant Michelet, dont je sais très bien, ben ça je l'ai vérifié parce que j'ai lu tous les livres sur la Révolution, je sais très bien quelles sont ses faiblesses. Il écrivait 50 ans après, il ne pouvait pas tout savoir. Mais il dit des choses et c'est là qu'il raconte ce qu'est le tribunal révolutionnaire. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans ce livre d'Anatole France, c'est qu'il va au cœur du problème, c'est-à-dire que son héros est un juré au tribunal révolutionnaire, qui va donc faire des condamnations à mort, il va devenir... Et alors, ce qui est de merveilleux dans ce livre, c'est d'abord des personnages qui n'est pas du tout monolithique. Il est un peu pessimiste, ce livre, c'est vrai. Il est un peu pessimiste, et... mais il est pessimiste comme l'est son personnage, Brotteau, qui est un des personnages du livre, qui n'est pas Évariste Gamelin, qui est juge au tribunal révolutionnaire, mais il y a des personnages secondaires, et Brotteau en particulier, il lit Lucrèce, n'est-ce pas ? Donc, c'est un épicurien. Pour lui, par exemple, la mort, c'est rien, la mort. Bon, et une pompe, quand Brotteau part pour la guillotine, il a son Lucrèce, et il marque d'un signé la page qu'il est en train de lire, et il met son Lucrèce dans sa poche avant d'aller se faire couper la tête. Il y a quelque chose qui est très beau. Et ces personnages, Athénaïs, la prostituée, bon, le père longue mort, qui est un barnabite, bon. Et tout ça, ce sont des personnages qui sont des personnages riches, confrontés, parce que Évariste n'est pas ce que beaucoup de gens ont dit, c'est vrai que c'est un... Il n'est pas très sympa. Il est pas du tout antipathique. Il partage son pain. D'abord, il a un amour qui traverse le livre, qui est très beau, un amour pour Élodie. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il a cet amour, il va faire couper les têtes. Et là, il est implacable. Il est très dur. C'est la révolution. On a péché sur l'égalité, sur la fraternité. C'est un amoureux de Marat, etc. Le peuple doit vaincre. Il y a tous nos ennemis qui sont là, qui nous menacent. La guerre de Vendée, les aux frontières, partout. Il faut qu'on soit plus dur. Et d'ailleurs, quand il va, bon, il condamne tous ces gens qui sont ses voisins, qu'il adore, Brotteau, il condamne le père Longuemort, et il les condamne tous à mort, il n'y a pas de problème, parce qu'il faut être dur pour que la révolution soit sauvée, c'est un peu un saint juste, en quelque sorte, un saint juste un peu médiocre. Bon. Et là, il pose véritablement tout ce qu'a été ce problème de la... Et derrière cela, moi je lis le stalinisme, derrière cela je lis tous ces gens qui ont voulu construire un monde meilleur, etc. Et d'ailleurs, quand il part pour l'échafaud, il dit, Gamelin, c'est de notre faute, on a bien mérité, nous n'avons pas été assez durs. Et là, c'est une analyse de ce qu'est quelque chose qui nous a tous marqués dans notre génération. C'est quand même le drame du stalinisme. Moi, j'ai été communiste pendant 2 ans dans ma jeunesse. J'ai pas pu supporter. Mais quand même, ces gens qui voulaient construire un monde meilleur et qui ont fait ce qu'ils ont fait. Or ça, il y a... Et alors, il montre très bien ce que, malheureusement, ce qui suède... C'est-à-dire que cette terreur qui se produit, ça aboutit à quoi ? Au directoire. Et le livre ne se finit pas par la mort d'Évariste. Le livre se terminait par le fait que sa maîtresse devient amoureuse d'un de ses rivaux. Enfin, il y a quelque chose de très beau dans ce qui est la description de cette violence, de cette folie de ceux qui veulent, au nom d'un avenir meilleur, font des choses absolument horribles. Et pour moi, c'est un livre très, très important.
Et comment comprendre que le roman ait été mal accueilli du côté de la famille politique d'Anatole France, du côté de la gauche, pour parler vite ?
Mais oui, parce qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'on ne parle pas de ces choses-là. C'est ça le problème. On n'en parle pas de ces choses-là. En 1912, on n'en parlait pas à Robespierre. Mais bon, il faudra attendre des gens comme Mathiez, comme des grands historiens pour essayer de comprendre mieux. Mais la gauche, on n'en parle pas. Bon, la révolution, c'est un bloc, comme disait Clémenceau. C'est-à-dire que c'est la révolution, c'est le rêve. Alors c'est vrai, mais il y a dans le rêve ce dérapage terrible de la terreur et du... Alors pourquoi cela ? Et je trouve qu'au contraire, ce livre, moi je le trouve... je trouve que c'est un livre de gauche. Mais ça n'a pas été l'avis d'un bon nombre de gens. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvaient que le personnage de l'ancien aristocrate épicurien était trop sympathique. la prostituée, qu'est-ce que c'est une prostituée qui écrit vive le roi. Enfin, il y avait quelque chose qui était ils acceptaient mal. Mais enfin, le succès du livre a été considérable, et c'est en partie sur ce livre qu'il a eu le prix Nobel quand même.
Hugo, donc, Anatole France, au programme de votre nuit, vous avez évoqué aussi Jules Michelet. Est-il concevable qu'une vocation d'avocat ne s'accompagne pas d'un intérêt et même d'une passion pour l'histoire et la politique, mais pour l'histoire surtout?
Je parle des jeunes avocats. Je suis quelquefois un peu surpris de leur méconnaissance historique, alors qu'ils lisent beaucoup quand même sur le plan littéraire, sur le plan de la réflexion, on ne sait pas du tout. Mais c'est vrai que l'histoire, enfin, je suis pas sûr d'ailleurs, moi c'est mon cas, je me suis passionné pour l'histoire, mais c'est peut-être pas... Je crois que ce qui est très important, c'est que nous faisons un métier qui exerce une fonction qui a sa place dans la démocratie. Et il faut connaître l'histoire de la démocratie. Moi j'ai toujours aimé plonger dans les choses. Nous avons parlé tout à l'heure, par exemple, de la liberté de la presse. Moi j'ai lu... Le débat de 1789, quand on fait l'article 11, c'est-à-dire comment il crée la liberté de la presse. J'ai lu l'intégralité du débat en 1881, lorsqu'on fait la loi sur la liberté de la presse. Et j'ai trouvé là les ressorts. Il y a dans l'histoire de la loi que nous sommes obligés d'appliquer, il y a quelque chose qui est lié à l'histoire tout court, et je pense que c'est très riche. Bon, puis je pense que c'est comme ça, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça, puis c'est tout.
Henri Leclerc, nous nous retrouverons dans un peu plus de 3 heures, juste avant la fin de votre nuit rêvée, après avoir écouté 1973, La naissance de Libération ou les limites du rêve, par Marie-Odile Delacour, un numéro de Grand Angle de 1993, Victor Hugo et les Misérables, une conférence donnée par Mona Ozouf à la Bibliothèque nationale de France en 2002, et enfin, Lecture du soir, Les dieux ont soif, d'Anatole France, par Michel Bouquet, en 1954, sur France 4, Haute Fidélité. Henri Leclerc, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.